Place aujourd'hui à une véritable histoire romanesque du XVIIIe siècle. Monique Brumont-Cassin nous plonge dans la passion du chevalier d'Édie et de la belle Aïssé dans l'entourage de Montesquieu. Bonjour Monique.
Bonjour.
Nous sommes tout ouïes.
Le chevalier d'Édie, évoqué hier, va devenir le héros d'une histoire d'amour légendaire et connue par le tout Paris de la Régence. Remontons à 1699 à Constantinople. Auprès de l'ambassadeur de France, Charles de Ferriol, un riche baron. Il achète une esclave de 5 ans, et ce n'est pas la première fois, et il la confie à sa belle-sœur, vivant à Paris. C'est la sœur de la célèbre salonnière Madame de Tansin. La petite est parfaitement élevée dans un couvent et baptisée. À 64 ans, le baron, excentrique et mauvais ambassadeur, est rappelé par Louis XIV. La superbe Aïssé a 16 ans. Son protecteur, vieux débauché colérique, et se considérant son maître, jette son dévolu sur la jeune fille contrainte de se soumettre. Car, tyran familial, il profite lâchement du statut de Aïssé, étrangère, orpheline, sans ressources et esclave, et sans aide surtout au début, de la belle-sœur qui dépend de lui financièrement. Cultivée, enjouée, Aïssé garde le secret et évolue dans les salons du grand monde, recevant bien des hommages masculins, mais elle y est indifférente. Quentin de la Tour a peint un remarquable portrait d'elle que nous retrouverons. Juste avant la mort de Ferriol, la belle Aïssé fait la connaissance de notre charmant Périgourdin, fréquentant tous deux le salon de Madame du Deffand en 1719. Ils ont 27 et 29 ans. Et voilà que Heidi trouve amusant de tenter sa chance. C'est un échec total. Elle l'aime en secret, mais ne veut pas qu'il puisse deviner les 10 années de turpitude auprès de son maître, qui va vivre encore 2 ans. Comme elle ne lui cède pas, Blaise Marie va lui promettre, eh oui, le mariage, et il est sincère. Toutefois, cela l'aurait bien embarrassé, car chevalier de Malte, il doit rester célibataire, s'il veut conserver ses revenus. Aïssé, elle, risque de se retrouver à la rue, ou bien pire. Touchée, amoureuse, elle succombe. Le grand secret de leurs amours est préservé, même lorsqu'elle tombe enceinte. L'amie de Montesquieu, Madame du Deffand, et quelques proches de confiance, de haut niveau d'ailleurs, vont l'aider. L'une va faire croire qu'Aïssé l'accompagne en Angleterre. En réalité, elle s'enferme dans une maison à Paris avec sa femme de chambre et une nourrice, et le chevalier est très présent. 25 avril 1721, au moment même de la parution des lettres persanes et de son histoire de harem. C'est la naissance de Cellini, avec pour nom de famille Le Blon. Car les deux parents ne reconnaissent pas le bébé, même si son père veille à son entretien et qu'il la voit tous les deux régulièrement. La petite, élevée au couvent, Aïssé ne peut rien lui révéler, son silence protégeant aussi ses proches et le chevalier. Elle devient une sorte de tante affectueuse et elle va lui permettre ainsi d'avoir un avenir. En 22, Ferriol, grabataire et sénile, meurt. Elle s'est occupée de lui. Il lui lègue 275 000 euros et la nomme gouvernante à vie de son hôtel. Heidi repart en mission en Europe, leur relation se distend même s'il reste très proche et il va plus souvent en Périgord. Aïssé s'ouvre de remords vis-à-vis de sa vie passée, elle se réfugie dans la prière, lui écrit des lettres émouvantes qui sont conservées. Elle dépérit moralement et de tuberculose. Il est à ses côtés, physiquement, lorsqu'elle meurt en mars 33 à 39 ans. Selon la volonté du baron de Ferriol, elle est même inhumée dans son caveau. Heidi emporte alors son portrait. Coup de théâtre. Le chevalier reconnaît Cellini, qui a 12 ans, comme sa fille, mais sans lui donner son nom. Il est un père parfait et l'emmène avec lui chez sa sœur au château de Maillac, près d'Excideuil, lorsqu'il se retire en Périgord en 1740. Autour de sa nombreuse famille, il organise une petite cour provinciale réputée et reçoit tout le voisinage, même des amis de Paris, et surtout, il chasse tous les jours, c'est sa passion. C'est de là qu'il envoie des truffes à Paris, que Montesquieu déguste. Cellini, très belle, nous avons aussi son portrait, est très courtisée. Elle va épouser à 19 ans quelqu'un qui est veuf, Pierre de Jaubert, vicomte de Nantia, au château de Landemarie près d'Antonne. Le chevalier l'a doté royalement 570 000 euros et lui laissera toute sa fortune à sa mort en 61. Hélas, ce mari est buveur et violent. Elle va donc divorcer et sûrement avec l'aide attentive de son père. À la naissance de leur fille unique, Marie-Denise, Heidi fera à Cellini le beau récit de son amour pour Haïssé et lui donnera son portrait. Mariée au comte de Bonneval, Marie-Denise emportera dans leur beau château les deux portraits de sa mère et de sa grand-mère. Ils y sont exposés. Allez les découvrir.
Très bien, eh bien, nous allons suivre votre conseil. Et demain, Monique, dans la prochaine chronique consacrée à la vie de Montesquieu, nous parlerons de son esprit de tolérance. À demain.